Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Vous êtes prêts? Est-ce que vos oreilles sont ouvertes? Est-ce que vos cœurs sont ouverts? Hallelujah! Ce matin, j'aimerais vous rappeler que votre Dieu est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de votre vie. Il est le créateur de votre destinée. Hallelujah! Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le rocher des âges et le rocher des siècles. Il règne d'éternité en éternité et ce matin, il n'a pas perdu sa puissance. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Je vous dis, ce matin, votre Dieu n'a pas perdu sa puissance, mais il règne. Hallelujah! Et parce qu'il règne, je règne aussi. Et parce qu'il règne, vous régnez aussi. J'aimerais vous poser une question ce matin. Qui est-ce qui règne sur cette terre? Ensemble, qui est-ce qui règne sur cette terre? Est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Qui est-ce qui règne sur cette terre? Qui est-ce qui règne dans vos vies? Qui est-ce qui règne dans vos cœurs? Qui a le dernier mot en toutes choses? Est-ce que vous le croyez ce matin? Hallelujah! Jésus a le dernier mot en toutes choses. Parce que notre Dieu règne, nous régnons. Si Dieu règne en vous, alors vous régnez sur cette terre. C'est une chose qu'il est important de réaliser. Parce que Dieu règne en moi, je règne sur cette terre. En fait, la Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des seigneurs. Parce que notre Dieu est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et lorsqu'il est parlé des rois et des seigneurs, il n'est pas parlé des rois et des seigneurs de cette terre, mais de nous, ses enfants, qu'il a fait et qu'il a placé en tant que roi et seigneur. Et il est le seigneur des rois que nous sommes sur cette terre. Est-ce que vous m'entendez? Il est le seigneur des seigneurs qu'il a placé sur cette terre. Et vous pouvez vous regarder les uns les autres et vous dire, tu es un roi du Seigneur ce matin. Tournez-vous à droite et tournez-vous à gauche et dites, je règne en Christ ce matin. Mes amis, quelles que soient les circonstances, nous régnons. Nous régnons dans le bon temps et nous régnons dans le mauvais temps. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il y a des gens qui pensent que nous régnons que dans le bon temps. Mais en fait, Christ nous a appris et nous a ouvert un chemin. Et il nous a appris que nous régnons en tout temps et en toutes circonstances. Nous régnons dans le bon temps, nous régnons dans le mauvais temps. Nous régnons quand il fait chaud, nous régnons quand il fait froid. Nous régnons quand il y a de l'argent, nous régnons quand il n'y a pas d'argent. Hallelujah! Nous régnons sur la montagne, nous régnons dans la vallée. Parce que régner en Christ n'a rien à voir avec les circonstances. Régner en Christ, c'est une position spirituelle. Vous pouvez être dans la vallée et régner. Vous pouvez ne plus avoir d'argent en poche et régner. C'est une position spirituelle. Et ce n'est même pas parce que vous avez de l'argent en poche et que vous êtes sur la montagne que vous régnez. Parce que les choses, vous savez, dans la vie, elles montent, elles descendent. Les circonstances changent, les situations arrivent. Et si votre règne dépend de l'argent que vous avez en banque, vous risquez d'avoir des surprises. Si votre sécurité dépend des chars, des chevaux, de votre force physique, vous allez avoir des surprises. Si votre sécurité est dans les hommes et dans les gens, vous allez aussi avoir des surprises. Votre force, votre sécurité est en Christ. Et la seule raison par laquelle nous régnons, c'est parce que Christ règne. Si Christ n'était pas sorti du tombeau, notre évangile serait vain. Si Christ n'était pas ressuscité, il serait un grand leader, un grand sage, comme il y en a eu beaucoup sur cette terre, qui ont eu de l'impact et de l'influence sur des milliers et des millions de personnes, mais rien de plus. Mais parce que Christ est sorti du tombeau, parce qu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie », parce que tout ce qu'il a dit avant, il l'a fait sous nos yeux et sous les yeux des disciples, parce qu'il ne nous a jamais menti, alors nous régnons, parce que Christ règne, je règne. Parce que je suis caché en Christ, parce que ma vie est cachée en Christ. Hallelujah. Et parce que si Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc mon règne sur cette terre, en dépit de ce que vous vous attendez à ce que Dieu fasse pour vous, en dépit de votre position de foi, en dépit des choses que vous n'avez pas encore, votre règne sur cette terre, mes amis, comprenez cela, ne dépend pas des circonstances. Le jour où c'est entré dans votre tête et descendu dans votre cœur, vous avez eu une grande victoire. Parce que votre règne ne dépend pas des circonstances. Votre règne est une position spirituelle. Et Dieu vous appelle et Dieu nous appelle, Église, à nous tenir dans cette position spirituelle. Avant de partir, avant même de savoir que j'allais devoir partir, bien souvent depuis le début de cette année, je vous ai posé cette question. Où êtes-vous assis? Où êtes-vous assis ce matin, je vous ai dit? Où êtes-vous assis ce soir? Combien de fois je vous ai posé cette question? Je vous ai posé cette question, êtes-vous assis au-dessus ou êtes-vous assis au-dessous? Et je vous repose cette même question ce matin. Où êtes-vous assis? Où sommes-nous assis? Mes amis, Jésus a été dépouillé de sa gloire. Il s'est lui-même dépouillé de sa gloire. Il est venu sur cette terre. Il est venu dans ce monde comme un simple homme. Il a suivi un chemin d'obéissance et de soumission pour aller jusqu'à la croix. Et la Bible dit, et tournez dans Éphésiens 1 avec moi, ce passage que vous connaissez si bien, au verset 20, il est parlé de l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette immense puissance, la Bible dit, Dieu l'a déployée en Christ. Amen. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, à la droite du Père, donc dans les lieux célestes, au-dessus. Et tout le monde dit au-dessus. Oh, vous pouvez faire mieux que ça. Au-dessus. Est-ce que vous en êtes convaincus ce matin? Au-dessus. De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné à l'Église. Qu'est-ce que ce puissant passage, qui est une révélation extraordinaire de Paul, nous dit? Il nous dit que Christ est assis à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, et cette position, il l'a donnée à l'Église. Maintenant, peut-être, le Seigneur a pensé qu'on aurait un petit peu de mal à comprendre, donc il a réinsisté. Et il dit au chapitre 2, et au verset 6, il nous répète la même chose, pour être bien sûr que nous comprenions. Il nous dit encore, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Peut-être Dieu a pensé qu'on aurait un petit peu de mal à comprendre. Alors il nous le répète deux fois, pour être bien sûr que ça va descendre dans notre tête, et puis descendre dans notre cœur. Donc mes amis, où êtes-vous assis ce matin? Où êtes-vous assis ce matin? Où sommes-nous assis ce matin? Sommes-nous assis au coin? Sommes-nous assis dans les ténèbres? Sommes-nous assis dans la peur? Sommes-nous assis dans la crainte? Sommes-nous assis dans le manque? Sommes-nous aussi dans la misérabilité? Ou sommes-nous assis avec Christ dans les lieux célestes? La position que Christ est venu nous offrir sur cette terre, c'est une position élevée. Il a payé un prix suffisamment cher et suffisamment coûteux pour que nous acceptions cette place et que nous nous asseyions dans ce fauteuil. Donc ce matin, peuple de Dieu, asseyez-vous dans ce fauteuil, parce que c'est le vôtre avec votre nom écrit dessus. Il y a un nom sur lequel il est écrit, qui est écrit sur ce fauteuil, et c'est écrit réservé. Juste pour vous. Que la place ne soit pas libre, que ce fauteuil ne soit pas vacant, mais que vous soyez assis dessus dans le nom de Jésus. Où êtes-vous assis ce matin? Au-dessus ou au-dessous? Au-dessus ou au-dessous? Au-dessus des circonstances ou au-dessous des circonstances? Au-dessus de l'ennemi ou au-dessous de l'ennemi? Hallelujah! Maintenant, j'aimerais vous dire, vous avez le choix. En fait, vous avez le choix de vous asseoir où vous voulez. Parce qu'il y a 3 sièges qui vous sont proposés. Il y a le siège qui s'appelle au-dessus. Il y a le siège qui s'appelle au-dessous. Et il y a le siège qui s'appelle au même niveau. Soit vous êtes au-dessus des circonstances ou au-dessus de l'ennemi. Soit vous êtes au-dessous des circonstances ou au-dessous de l'ennemi. Soit vous êtes au même niveau que les circonstances et que l'ennemi. Maintenant, je vais vous dire une chose. Votre vie ne sera pas la même en fonction du siège dans lequel vous vous êtes assis. Le diable ne veut pas que vous vous asseyiez dans le siège qui s'appelle au-dessus. Il veut que vous vous asseyiez dans le siège qui s'appelle au-dessous. Et s'il n'arrive pas à vous faire asseoir dans ce siège qui s'appelle au-dessous, il aimerait qu'au moins vous vous asseyiez dans ce siège qui s'appelle au même niveau. Mais mes amis, vous êtes assis ce soir, ce matin, au-dessus, dans les lieux célestes, avec Christ. Alléluia. Peut-être vous êtes déjà monté dans des manèges. Il y a des manèges, vous savez, ils vous font asseoir au-dessus. Vous montez, je ne sais pas, dans une roue, dans je ne sais trop quoi. Vous avez les jambes en l'air. Vous voyez les jambes un petit peu dans le vide et vous voyez tout le monde en bas qui est assis, tout petit. Mes amis, ça c'est rien. Le manège, c'est rien. Lorsque vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire bien au-dessus. Bien au-dessus. Les gens, vous ne les voyez pas à cette dimension, vous les voyez à cette dimension. Le diable, vous le voyez à cette dimension. Est-ce que vous pouvez avoir cette vision, avoir cette image ce matin dans le nom de Jésus? Lorsque vous étiez plus jeune et que vous êtes monté dans un manège et que vous étiez là-haut, avec cette impression, vous savez, de vide au-dessous de vous, de distance, et que vous étiez assis bien au-dessus. Mais avec Christ, vous êtes assis encore plus au-dessus. Vous êtes assis vraiment bien au-dessus. Donc il y a 3 sièges qui vous sont réservés, 3 sièges qui vous sont préparés dans votre vie. C'est à vous de choisir où est-ce que vous vous asseyez ce matin. Alléluia. Parce que votre vie ne sera pas la même en fonction du siège que vous avez choisi. Mes amis, lorsque vous êtes assis dans le siège qui s'appelle au-dessous, vous vivez dans la peur. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Parce que l'ennemi est plus grand que vous. Pourtant, vous êtes rachetés par le sang de Jésus. Pourtant, vous avez les mêmes armes, le nom de Jésus, la puissance de Dieu. Mais parce que vous êtes assis dans ce siège qui s'appelle au-dessous, Satan est plus fort que vous. Et vous êtes vaincus. Vous n'osez même pas prier. Vous n'osez même pas prononcer le nom de Jésus dans les situations. Vous avez peur, peur de ce qui va vous arriver, peur de ce qui va vous tomber dessus. Peur de manifester une autorité. Il y a des chrétiens qui sont comme ça dans ce monde. Peur d'utiliser leur autorité dans le nom de Jésus. Parce qu'ils ont peur, parce que le diable est assis au-dessus de leur tête. Parce qu'ils voient le diable comme étant au-dessus d'eux. Ils voient les circonstances comme étant au-dessus. Ils sont déjà écrasés avant même d'avoir essayé de faire un effort. Ils sont déjà vaincus avant même d'avoir essayé de faire quoi que ce soit. Ça, c'est le siège qui s'appelle au-dessous. Je ne sais pas si vous voulez vous y asseoir ce matin. Mais en tout cas, c'est pas Christ qui vous y invite. Le diable vous y invite. Satan vous appelle dans ce siège. Il aimerait bien que vous asseyiez dans ce siège et que vous vous sentiez au-dessous, que vous vous sentiez écrasé. Mes amis, il y a un deuxième siège. Il s'appelle au même niveau. Et mes amis, si vous vivez au même niveau que le diable, au même niveau que les circonstances, je vais vous dire comment vous allez passer votre vie. Vous allez passer votre vie à vous battre. Ouh! Vous connaissez les gens qui sont éternellement dans le combat? Vous allez passer votre vie à avoir toujours les gants de boxe et votre vie n'est qu'un combat. Parce que le diable est à la même distance que vous. Oh, il n'est pas au-dessus de vous, mais il est juste en face de vous. Les circonstances, elles sont en face de vous. Elles ont la même taille que vous. Elles ont la même force que vous. Elles ont la même puissance que vous. Donc, elles sont au même niveau que vous. Donc, votre vie, vous allez la passer à vous battre. À vous battre à droite, à vous battre à gauche, à vous battre devant, à vous battre derrière. Et lorsqu'un combat est terminé, vous rentrez dans un autre combat. Et encore dans un autre combat. Et votre vie, c'est dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Parce que l'ennemi est à votre taille. Il est aussi fort que vous. Et votre vie, c'est comme si vous la viviez devant un punching ball. Vous donnez des coups de poing dans ce punching ball et il vous revient toujours au visage. Boum! Hop! Un coup de poing, il descend et il remonte, il descend et il remonte, il descend et il remonte. Votre vie est un combat, votre vie est une bataille. Parce que vous êtes assis dans le siège qui s'appelle au même niveau. Mais mes amis, votre vie sera bien différente si vous vivez et si vous vous asseyez dans ce siège qui s'appelle au-dessus. C'est ce siège sur lequel il y a votre nom inscrit dessus. Hallelujah. Et dans ce siège, mes amis, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes assis au-dessus et vous vivez dans le tout accompli de Dieu. Vous vivez dans la foi, dans la confiance et dans la paix. Le diable est résolument sous vos pieds. Hallelujah. Mes amis, celui qui vit au même niveau, lorsqu'il prie, alors le premier ne prie même pas, il n'ose même pas prendre autorité. Le deuxième, il prie, même il prie tout le temps. Et il dit, Satan, tu pars dans le nom de Jésus. Tu pars, je te l'ordonne. Tu vas partir, oui, maintenant ou quoi? Je compte jusqu'à 1, 2, 3. J'ouvre la porte et tu sors. 1, 2, 3. Tu pars oui ou quoi? Dans le nom de Jésus. Allez, je recommence. Celui qui vit au-dessus, il prie et il dit, Satan, tu pars dans le nom de Jésus. Et il va à sa cuisine en sifflant et il cuit ses pommes de terre et il fait cuire son riz. Et il s'occupe des choses qu'il doit s'occuper. Dans le nom de Jésus. Vous êtes au-dessus ce matin ou vous êtes au-dessous? Hallelujah. Ce matin, j'aimerais vous parler de la vie d'un homme qui a régné et qui règne. Et cet homme s'appelle Paul. Hallelujah. Gloire à Jésus. Paul était un homme qui régnait. Sa vie était-elle en couleur pastel? Répondez-moi, en couleur édulcorée. Oui ou non? Vous en êtes sûr ce matin ou pas? Vous êtes là avec moi ce matin ou pas? Paul était un homme qui régnait, je le répète. Sa vie était-elle en couleur pastel? Non. Sa vie était-elle facile? Sa vie était-elle un lit de roses? Mais pourtant, sa vie était victorieuse. Paul était triomphant en toutes circonstances. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et c'est exactement ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne nous a jamais promis une vie où nous sommes allongés sur un lit de pétales de rose. Mais il nous a promis une vie triomphante. Il nous a pas promis une vie facile. Il nous a promis une vie triomphante. Il nous a pas promis une vie où rien ne se passe. Il nous a promis une vie triomphante. Une vie de victoire. Hallelujah. Maintenant, Paul a particulièrement parlé aux Corinthiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre Bible, mais il y a deux épîtres aux Corinthiens. Et ces deux épîtres, elles sont vraiment des grandes épîtres. Parce que voyez-vous, cette église de Corinthe, c'était une église qui donnait quelquefois, bien souvent en fait, quelques maux de tête à Paul. Pas comme cette église ici, n'est-ce pas? Mais vous savez, il y a des chrétiens, parfois, ils nous donnent un peu le mal de tête. Il faut leur expliquer, leur expliquer. En tout cas, dans cette église de Corinthe, les gens là-bas étaient charnels. Vous savez, charnel, c'est dangereux d'être charnel. tous les gens qui sont charnels, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour l'œuvre de Dieu, ils sont dangereux pour eux, ils sont dangereux. Ils sont pleins de poisons et pleins d'infections. Ils sentent mauvais. Il faut le dire. Ok, je n'offense personne. J'espère. Ça va pour tout le monde, ok? Je pense d'ailleurs qu'il n'y a personne de charnel ici. Je pense que tout le monde est spirituel dans le nom de Jésus. Les Corinthiens, ils étaient charnels. C'est terrible les gens qui vivent dans la chair. Ils font profession de croire en Dieu, de faire toutes les choses de Dieu. Et puis, à l'intérieur d'eux, il n'y a rien de Dieu en eux. Tout est poison, tout est mauvaise odeur, tout est infection. Ils comprennent rien, ils prennent toutes les choses à l'envers. Vous leur expliquez blanc, ils comprennent noir. Ça, ce sont les gens charnels. Ils sont offensés, ils sont pas contents, ils râlent. Ils font des histoires, ils créent des disputes, ils créent des divisions. Ils prennent l'avantage, ils tirent l'avantage, toujours la couverture sur eux. Ils veulent toujours avoir la lumière sur eux. Ils veulent toujours avoir un certain respect et une certaine salutation. Et, oh mon Dieu, mon Dieu. 2 épîtres Paul a écrit aux Corinthiens. Parce qu'il avait beaucoup de choses à leur dire. Parce que Dieu les aime malgré tout, ces gens charnels. Parce que Dieu, il continue de leur parler, de les exhorter pour qu'ils montent dans les choses de l'esprit. Je ne sais pas, moi je n'étais pas avec les Corinthiens. Mais en tout cas, notre Bible nous dit qu'ils étaient charnels, ils étaient orgueilleux et pleins de péchés aussi. Il y a du péché dans l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais voyez-vous, Paul a parlé aux Corinthiens comme il n'a jamais parlé à personne d'autre. Et il a révélé aux Corinthiens des choses de sa vie, de son cœur, de sa nature, de ses expériences, comme il l'a fait à personne d'autre. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans 1 Corinthiens 4. Et je vais vous montrer ce que Paul a dit aux Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 4, au verset 6. Les Corinthiens étaient très orgueilleux, pleins de compétition. Et puis aussi, parce qu'ils étaient charnels, le premier qui arrivait et puis qui se faisait un petit peu mousser devant eux, qui mettait un petit peu de poudre spirituelle autour de lui, qui prenait un langage de serviteur de Dieu, ils étaient tout de suite impressionnés. Ah. Vous connaissez les gens qui suivent, qui sont pas enracinés. Dieu les place quelque part, puis il y a quelqu'un qui dit autre chose et hop, ils disparaissent comme une vapeur. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas à être comme cela. Dieu nous appelle à être enracinés, fondés. Personne qui n'a pas fait pousser de puissantes racines dans sa vie ne pourra porter de fruits. Et si personne ne porte de fruits, la Bible dit que l'arbre sera coupé et jeté au feu. Parce que c'est le fruit de nos vies. Ce que Jésus va venir voir dans notre vie, et lorsque nous passerons devant lui, ce ne sera pas simplement notre attitude de cœur, mais ce sera le fruit de nos vies. Est-ce que nous avons porté du fruit? Quel est le fruit dans nos vies? Donc, il parle aux Corinthiens. Ces Corinthiens, regardez à partir du verset, je ne vais pas lire jusqu'au verset 6, mais on va dire, 6, on va dire la moitié du verset 6. « Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» J'aime beaucoup ce verset là. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tournez-vous vers votre voisin. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Vous êtes déjà rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Alléluia. Et puissiez-vous régner en effet afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, et voilà Paul qui commence à parler maintenant. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, il dit écoutez-moi Corinthiens, il a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Paul est en train de dire aux Corinthiens, Mes amis, ne commencez pas à vous glorifier de ceci ou de cela, ou de suivre tout et n'importe quoi, parce que pour que vous soyez riches, il nous a fallu, nous, être pauvres. Pour que vous soyez honorés, il nous a fallu, nous, être méprisés. Pour que vous soyez sages, nous avons dû devenir fous. Et c'est vrai que nous devons devenir fous pour que les autres deviennent sages. Il a fallu que nous passions et que nous prêchions la folie de la prédication pour que vous parveniez à la sagesse de Dieu, n'est-ce pas vrai? Et les Corinthiens commençaient à oublier cela. Et donc nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, voici ce que dit Paul, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayeurs du monde et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de révéler à ses Corinthiens qui s'évaporent et qui se dispersent facilement. Il est en train de dire, pour que vous deveniez riches, moi, Paul, j'ai dû devenir pauvre, j'ai dû devenir fou, j'ai dû devenir méprisé. Alors ne méprisez pas le don de Dieu facilement. Et puis avec cela, donc, il nous parle de sa vie. Et il continue en 2 Corinthiens 10. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 10. Dans une autre situation, Paul encore révèle son cœur. Et voici donc, là dans cette situation, c'est plus simplement une situation d'orgueil où les gens pensent qu'ils ont tout reçu par eux-mêmes, etc. C'est une situation là où des gens viennent, vous savez, se faire briller devant eux et qu'ils sont tout impressionnés, prêts à partir à droite et à gauche. Et Paul répond, dans 1 Corinthiens 10 au verset 10, il dit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. » Il dit « Oh, nous n'osons même pas nous égaler à la hauteur de ce qu'ils sont dans leurs paroles et dans leurs attitudes. » Vous connaissez des gens comme ça? Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Alléluia. Et voici ce qu'il dit. Regardez au chapitre 11 et au verset 23. Il dit « S'ils sont ministres de Christ, ou s'ils sont ministres de Christ, ces gens-là, qui viennent pour essayer de briller devant vos yeux. Ok? Je parle en termes extravagants. Il dit, s'ils sont ministres de Christ, je le suis plus encore. Et il explique en quoi il est ministre de Christ plus encore que les autres. Par les travaux, bien plus. Par les coups, je le suis bien plus. Par les emprisonnements, je le suis bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 5 fois mes amis, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Alléluia! J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Vous savez qu'il a été lapidé à mort et que Dieu l'a ressuscité. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je me suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Qu'est-ce que Paul nous dit? Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, voici ce que c'est que d'être un serviteur de Dieu. Si ces gens disent qu'ils le sont, je le suis d'autant plus. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Paul révèle son cœur. Il révèle son cœur aux Corinthiens et leur dit, voici ce que c'est l'essence de nos vies. Les gens pensent qu'embrasser le christianisme, embrasser Christ, c'est embrasser une bénédiction. Ma voiture, mon avion, ma maison, et mon appartement, et mon argent en poche, et mon argent de poche. pour aller faire mon petit shopping. Alléluia. Paul parle aux Corinthiens et leur dit, voici ce que c'est la vie en Christ. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ont peur. Beaucoup de gens sont effrayés par ceci ou par cela, vite dispersés. Mais Paul parle aux Corinthiens. Et non seulement il parle aux Corinthiens, mais il parle encore aux Corinthiens. Trois fois il a parlé aux Corinthiens comme cela. Regardez avec moi rapidement dans 2 Corinthiens 6. Vous vous rendez compte tout ce qu'il a dit aux Corinthiens et aux Corinthiens seulement? À partir du verset 4, il dit, et c'est encore dans une autre situation, il dit, « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les emprisonnements, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Qu'est-ce que Paul disait? Je suis en train de vous dire où est-ce que vous êtes assis, mes amis. Est-ce que vous êtes assis au-dessus ou est-ce que vous êtes assis au-dessous? Dans les circonstances de nos vies. Et Paul, qui était un homme qui régnait, dans toutes ces circonstances qu'il nous évoque, qui sont même incroyables, qui sont tellement impressionnantes, comment peut-on réaliser que Paul est passé par 3 naufrages? On savait qu'il était passé par un naufrage, mais là il nous parle 3 naufrages. Mes amis, je ne sais pas pourquoi il est passé par un naufrage. Ce que je sais, c'est que lorsque les disciples étaient avec Jésus dans le bateau, amen, ils ont réveillé Jésus, Jésus leur a dit « bande d'incrédules ». Vous manquez de foi, il a parlé au vent, il a parlé à la mer, il y a eu un grand calme. Paul connaissait bien les Écritures et Paul connaissait très bien la vie de Jésus. Paul est passé dans un naufrage. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas levé, il n'a pas dit cela. Je ne sais pas pourquoi il est passé par 15 jours de tempête où il n'a pas vu les étoiles, il n'a pas vu le ciel ni le soleil. Je ne sais pas pourquoi il est passé par tout ça, mais en tout cas, il y est passé. Mais au travers de ces choses, il a toujours été victorieux. C'est pourquoi il a conclu en Romains 8, il a dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ? La persécution ou la faim ou la nudité ? Le péril ou l'épée ? Mais en toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Paul était triomphant et il régnait en tout temps. Alléluia. Et moi je vous dis, mes amis, nous régnons en tout temps. Nous régnons en toutes choses. Nous régnons en toutes circonstances. Est-ce que vous régnez ce matin? Ouh! Est-ce que vous régnez ce matin? Hallelujah! Est-ce que vous êtes assis au-dessus ce matin? Gloire à Jésus. Tournez dans votre Bible à Actes 16. Gloire à Jésus. Hallelujah. Voici ce qui se passe. Paul est dans son deuxième voyage missionnaire. Et cette fois-ci, il est parti avec Silas. Vous connaissez bien ces histoires, n'est-ce pas? Ils sont partis ensemble, ils ont fortifié donc les églises de la Syrie et de la Cilicie. Et puis, voici donc que Paul arrive à Troas. Et qu'à Troas, il est empêché par le Saint-Esprit donc d'aller à Troas et de prêcher, d'évangéliser. Et donc, il reçoit une vision. Il reçoit une vision là et il voit cet homme de Philippe, amen, un Philippien, qui lui parle et qui lui dit « Sauve-nous, viens et sauve-nous ». Et j'aimerais que vous sachiez une chose. Lorsque l'on sert Dieu, Dieu nous donne une vision. Nous ne courons pas à droite et à gauche comme à l'aventure. Nous ne battons pas de l'air. Dieu nous donne une vision. cette vision est devant nos yeux jour et nuit. Et nous courons pour accomplir cette vision. Ce ministère a une vision. Mon mari a une vision. Nous avons reçu une vision. Parce qu'un serviteur de Dieu a une vision. Hallelujah. Paul reçoit une vision. Et donc, il suit cette vision. Et cette vision, c'est d'aller à Philippe. Maintenant, on dit merveilleux. Nous avons une vision. Si nous avons une vision, nous disons souvent, nous avons aussi une provision. Gloire à Dieu. Et vous savez, Paul était un homme expérimenté. Il savait que lorsqu'il y a une vision, qu'il y ait des difficultés ou pas, Dieu va accomplir la vision. Mais parfois, la vision ne s'accomplit pas sans difficulté ou sans opposition. La Bible dit, vous aurez toute espèce de choses dans ce monde, avec des tribulations. Vous aurez, si quelqu'un a donné sa maison, si quelqu'un a dû perdre son frère, son père, sa mère, pour la cause de Christ, il recevra dans ce siècle présent des maisons et des pères et des mères et des enfants et des frères et des sœurs avec des persécutions. Donc que personne ne se pose la question, « Oh mais pourquoi Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il dans ma vie? Pourquoi ceci se passe-t-il ? » Vous savez, il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Laissez-moi vous répondre ce matin. Que la parole de Dieu vous réponde ce matin. Hallelujah. Paul part avec une vision à Philippe. Et qu'est-ce qui se passe? Il est là à Philippe, en train de marcher, peut-être en train de prêcher. Et il y a une femme, on va le lire ensemble. Et il y a une femme qui était là au verset 16. Et il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Qu'est-ce qui se passe? Paul est là, ils marchent, ils sont des inconnus. On ne connaît pas le grand Paul dans les rues de Philippe qui arrive pour la première fois. Et donc ils sont là, ils sont en train de voir comment Dieu va leur ouvrir la porte pour que cette ville vienne à Jésus. Alléluia. Et puis il y a une femme qui a un esprit de divination, un esprit de python, est là derrière en disant des bonnes choses, n'est-ce pas? Des bonnes choses. Oh, ce sont les serviteurs du Très-Haut. Un esprit est là et commence à s'attacher à eux. Et la Bible dit que Paul a été fatigué. Parce qu'il y a des esprits qui viennent contre le corps de Christ pour fatiguer. Et même si celui-là paraissait être tout à fait extraordinaire et tout à fait merveilleux en disant « Ce sont des serviteurs du Très-Haut », c'était là pour les harceler. Cet esprit les harcelait et les harcelait. Paul, fatigué, se tourne, parle à cet esprit et le chasse dans le nom de Jésus. Et parce que Paul est assis avec Christ dans les lieux célestes, qu'est-ce qui se passe? L'esprit part instantanément. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisirent de Paul et de Silas. Ouh! Et ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Seigneur! Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Où est la vision, mes amis? Où est la vision? Un Philippien, sauve-nous, Seigneur. Où est la vision? Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Mes amis, on est bien loin de cette vision. Est-ce que Paul avait vraiment reçu une vision? Peut-être certaines personnes se seraient posé la question. Paul a dû se tromper. Il a dû trop manger dans cette nuit. C'est quoi cette vision? Bon, on ne s'accomplira pas cette vision. Paul, traîné en place publique. Vous savez ce que c'est traîner? Vous voulez que je prenne quelqu'un et que je le traîne là? Prenez quelqu'un par sa veste et vous le traînez. Okay? Paul traîné. On lui crie dessus. On lui arrache ses vêtements. On le bat de verge. on le jette en prison et on lui met les cèpes aux pieds. Mais Paul n'a pas pleuré. Mes amis, Paul ne s'est pas lamenté. Paul n'a pas dit « Oh Seigneur, combien c'est dur de te servir !» Il n'a pas dit « Mais c'est bizarre, pourquoi ça m'arrive ? Je comprends pas. Pourquoi le diable m'attaque comme ça ? Rentrons à la maison. Allez, rentrons à la maison, rentrons chez maman. Maman va nous préparer un bon petit plat et elle va nous consoler. Rentrons chez maman. Et puis pleurons un bon coup, ça nous fera du bien. Ça va nous... On va sentir la pression qui sort là. Paul n'a pas dit cela. Paul n'a jamais dit cela. Paul savait en qui il avait cru. Est-ce que vous m'entendez ce matin ? Paul savait en qui il avait cru. Vous savez en qui vous croyez, n'est-ce pas ? Je sais en qui j'ai cru. Mon mari sait en qui il a cru. Et nous savons qu'il est bien capable. Bien capable. Paul était dans sa prison. La vision était bien loin. Mais la Bible dit que Paul et Silas, hallelujah, vers le milieu de la nuit, priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Est-ce que vous m'entendez ce matin ? J'ai pas l'impression que vous m'entendez. Au milieu de la nuit, qu'est-ce que faisaient ces deux prisonniers hors du commun ? Parce que n'importe quel autre prisonnier aurait pleuré. Ce serait lamenté. Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur tellement fort que tous les autres prisonniers les entendaient. Peut-être les autres prisonniers leur disaient, dis donc, tais-toi, toi là-bas. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu chantes? T'es bien bizarre. Tais-toi, laisse-nous dormir tranquille. Ces gens ne connaissaient pas le Seigneur, n'est-ce pas? Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hallelujah. Mes amis, sachez une chose, quand vous louez Dieu dans l'épreuve, vous avez toujours un temps d'avance sur les circonstances. Vous avez toujours un temps d'avance sur le diable. Hallelujah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre. Les liens sont tombés. Hallelujah. Les liens de tous les prisonniers sont tombés. C'est pas merveilleux ça? Et il est dit, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Mes amis, qui est-ce qui régnait dans cette situation? Qui est-ce qui régnait dans cette situation? C'est aux pieds de qui qu'on vient trembler et pleurer, eux qui ont été battus de coups et de verges? Qui est-ce qui régnait? Qui est-ce qui règne aujourd'hui? Est-ce que vous régnez aujourd'hui? Est-ce que nous régnons aujourd'hui? Alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment et se jeta aux pieds donc de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur !» Il les appelle « Seigneur, des seigneurs !» Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et voilà l'accomplissement de la vision. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ils lui annoncèrent les paroles du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, alléluia, et aussitôt il fut baptisé et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les prisonniers, les geôliers, toute sa maison, après cette grande épreuve, ont été sauvés. Alléluia. Et là a commencé un extraordinaire réveil. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et la vision de Dieu s'est accomplie. Parce qu'une chose est sûre, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. On ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Hallelujah. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Faut-il que je le répète dans vos vies, pour ce ministère et en toutes circonstances? Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. On ne se moque pas de Dieu. Les gens peuvent passer et partir. La vision reste et elle s'accomplira certainement. Hallelujah! Un grand réveil a explosé à Philippe selon la vision. Hallelujah! Qui est-ce qui régnait dans cette situation? C'était Paul. Qui est-ce qui règne dans nos situations si nous sommes assis au-dessus? C'est nous. Hallelujah! Au verset 35, on voit que là, les prêteurs envoyèrent des lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Ne vous ai-je pas dit que lorsque nous louons le Seigneur, nous avons toujours un temps d'avance? Ils étaient déjà relâchés. Ils étaient déjà en fait relâchés, pas par l'ordre et la grâce des lecteurs ou des prêteurs. Ils avaient été déjà libérés par la puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche, maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au lecteur, et j'aime cela, j'aime bien cela, j'aime bien le caractère de Paul. Oh, il a un caractère trempé. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement comme des vauriens, comme des malpropres. On devrait prendre et sortir par la petite porte en nous cachant, en sortant discrètement de la ville comme des malpropres. Paul est un homme qui règne. Il n'en sera pas ainsi, dit-il. Qu'ils viennent eux-mêmes, les grands de cette ville, les grands de ce monde, pour nous remettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en leur priant de quitter la ville. Et la Bible dit que quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, donc ils sont retournés tranquillement au lieu de prière. Ils sont allés fortifier le réveil qui commençait. Amen. Et après les avoir exhorté les frères, ils partirent. Mais mes amis, lorsqu'ils sont partis avec les honneurs. Ils sont partis comme des gens respectables qui avaient été bafoués. Hallelujah. Ils sont partis totalement victorieux. Ils sont partis comme des gens qui régnaient. Hallelujah. Gloire à Jésus. Vous êtes peut-être affligés ce matin. Peut-être vous êtes affligés dans votre chair ou dans des circonstances et des situations de votre vie. Mais qui est-ce qui règne ce matin? Est-ce que je peux vous entendre? Qui est-ce qui règne ce matin? Qui est-ce qui règne ce matin? C'est vous! Qui va voir la puissante main de Dieu? C'est vous! Qui va voir la multiplication dans votre vie? Oh, vous pouvez le dire mieux que cela, hein? Qui va voir la puissance, la grâce et la faveur? Alors ne vous lamentez pas. Ne soyez pas attristés. Restez dans votre position spirituelle. Restez assis avec Christ dans les lieux célestes. Et comme Moïse déclarait, Hallelujah, alors que tout les armées des Égyptiens étaient à leur poursuite, qu'il leur courait derrière et qu'il y avait une grande poussière, un grand nuage de poussière qui montrait la puissance de cette armée qui les poursuivait et qui leur courait derrière et le peuple qui commençait à être effrayé, Moïse a dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Hallelujah! L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Louez le Seigneur, peuple de Dieu, ce matin. Exaltez son nom ce matin. Glorifiez son nom ce matin. Montez dans les lieux élevés. Asseyez-vous à la droite du Père. Soyez assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Applaudissons le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia, alléluia.